Bonsoir, bonsoir à vous qui êtes fidèles au Centre Sèvres, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en région, bonsoir à nos amis de RCF qui nous entendent, eux, par la voix des ondes, pour ce mardi d'éthique publique consacré ce soir au grand débat. Après le grand débat, quel modèle social ? Le samedi 11 mai dernier, le mouvement dit des Gilets jaunes a connu sa plus faible mobilisation depuis novembre 2018. Rien n'indique pourtant qu'ils doivent cesser dans un avenir prévisible. À l'origine, le grand débat national voulu par Emmanuel Macron était conçu comme l'une des réponses. Il y a eu aussi l'annonce rapide de 10 milliards d'aides au pouvoir d'achat. L'une des réponses donc à l'occupation des ronds-points routiers par ce mouvement inédit, et surtout une réponse à la rare violence à travers laquelle se sont exprimées des revendications hétéroclites qui allaient du prix du carburant, ce par quoi tout aurait commencé, jusqu'à la suppression de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes à deux voies et à l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Sans oublier, bien sûr, la revendication première et non négociable, la démission du président de la République. L'idée du grand débat engagé sur quatre thèmes, la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, cette idée a d'abord été accueillie avec scepticisme. Puis, les contributions du président de la République lui-même, souvent impressionnantes, et la mise en place de divers canaux, réunions publiques, sites internet, cahiers de doléances dans les mairies, par lesquels pouvaient s'exprimer les attentes citoyennes, ont levé les doutes. Certains ont même parlé de succès. Les interrogations se sont alors déplacées vers les réponses qui seraient apportées. Emmanuel Macron, on l'a suffisamment entendu, allait jouer la suite de son mandat sur les annonces qu'il ferait après le dépouillement de toutes ses contributions. Les annonces ont été faites lors d'une conférence de presse dans un contexte très troublé par l'incendie de Notre-Dame. Il en reste aujourd'hui des baisses d'impôts, un aménagement des institutions, réduction du nombre des parlementaires, introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives, référendum d'initiative citoyenne, mais à l'échelon local, arrêt des fermetures d'hôpitaux et d'écoles dans les territoires. Sans oublier, bien sûr, la suppression de l'ENA. Rien de fracassant, en fait, si ce n'est que la facture s'élève désormais à 17 milliards d'euros. François Bayrou n'en a pas moins jugé ce plan d'action incroyablement ambitieux, il y a deux jours dans le journal du dimanche. Mais de toute façon, l'attention des médias s'est déjà déplacée. Désormais, tout va se jouer sur la liste arrivée en tête aux élections européennes. Notre ambition ce soir n'est pas incroyable, mais elle existe. Il s'agit de dépasser l'appréciation des mesures immédiates pour prendre un peu de recul et tenter de distinguer si un modèle social et politique un peu cohérent s'est dégagé de ces propositions et confrontations du grand débat. C'est difficile, à l'évidence, et il convient donc de remercier d'emblée les trois personnalités qui ont accepté de relever le défi. Vincent Martigny est maître de conférences en sciences politiques à l'École Polytechnique, chercheur au Centre d'études de la vie politique française, le CEVIPOF. Il est l'auteur de « Dire la France », paru aux presses de Sciences Po en 2016, et tout récemment du « Retour du prince », paru chez Flammarion en 2019, il y a deux mois. Patrice Moyon est journaliste à Ouest France, chroniqueur économique et social, éditorialiste, fin observateur des questions agricoles, ce qui lui a valu quelques ennuis avec la firme Monsanto, qu'il aura peut-être l'occasion d'évoquer. Et François Soulages, qui va nous rejoindre, est économiste, ancien président du Secours catholique de 2008 à 2014, et il a publié en particulier « Le pari de la fraternité » avec Guy Orange aux éditions de l'Atelier en 2012, et « Justice et charité » chez Les Clés de Brouwer en 2012 également. Vous trouvez tous ces ouvrages en vente à la sortie de cette salle. Et c'est à Vincent Martigny qu'il revient d'ouvrir le feu.
Bonsoir à tous. Merci beaucoup Jean-Luc Poutier de cette invitation. Merci beaucoup à la faculté jésuite, au centre et à la revue études de me permettre de venir vous parler en quelques mots, quelques observations sur ce grand débat. D'abord, peut-être commencer par dire que, et même si, encore une fois, on le répète à longueur de temps, mais il faut s'en souvenir, ce grand débat fait suite ou est corollaire d'un mouvement social qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la Ve République. Il n'est jamais arrivé qu'un mouvement social qui touche une base en grande partie populaire dure plus de 6 mois en France, quelle que soit son intensité, à basse, moyenne ou haute intensité, sans jamais trouver d'arrêt. Et même si toutes les samedis on peut constater une baisse de la mobilisation, c'est une mobilisation qui demeure encore importante et surtout qui trouve un écho dans l'opinion publique qui demeure relativement important. Encore une fois, même si elle se tasse, un mouvement social, on le sait en sciences politiques, d'habitude il a un début, une intensité, puis très vite il arrive à une fin, c'est tout à fait naturel. Eh bien, il me semble que, en tout cas, dans les 50 ou 60 dernières années, ce mouvement n'a pas donc de précédent dans sa forme comme dans le fond, nous pourrons peut-être en parler tout à l'heure. Donc, pour essayer, non pas d'accompagner ce mouvement, mais probablement de l'encadrer, et on reviendra tout à l'heure sur ce que je veux dire par là, le pouvoir exécutif a lancé le grand débat comme une volonté non pas d'ouvrir un débat d'une certaine manière, et je voudrais commencer par cette idée, mais par une manière de le clore. Le débat a été ouvert par les Gilets jaunes dans un mouvement de contestation radicale de l'autorité du président de la République, là aussi relativement sans précédent dans la violence des termes qui ont été employés contre le pouvoir central. Et donc, il faut voir d'abord le grand débat comme une volonté pour le pouvoir de reprendre la main. Et on ne peut pas le comprendre autrement que comme cela. Alors, ce débat a été également présenté comme sans précédent par le président de la République. En réalité, ce n'est pas totalement vrai. Il y a eu ponctuellement des grands débats en France, et on parle, je pense notamment au dernier grand débat, celui qu'avait lancé Nicolas Sarkozy, un débat, vous vous en souvenez peut-être, en 2009-2010, sur l'identité nationale. Un débat d'une autre nature, évidemment, mais qui avait quand même réuni 23 000 participants, 50 000 participations sur Internet, et avait donné lieu à l'organisation de 277 débats dans des préfectures, ou principalement. Ici, il faut reconnaître qu'on est dans des débats d'une ampleur beaucoup plus vaste, puisque on compte environ, tout compris, environ 2 millions de contributions, à la fois dans des débats physiques et dans des participations sur Internet. Alors attention, 2 millions de contributions, ça ne signifie pas 2 millions de contributeurs. Ça veut dire qu'il y a des fois, parfois, des gens qui font 10, 15, 20 contributions sur Internet, ou des gens qui participent à plusieurs débats, comme ça a pu être le cas. Peut-être certains d'entre vous ont-ils souhaité se rendre dans ces débats, et on se rend compte quand même que, notamment en dehors des grandes villes, ces débats mobilisent des populations qui reviennent. Alors, c'est intéressant de constater aussi que lorsqu'on réfléchit aux grands débats, on a tendance à y voir un grand exercice démocratique, évidemment, mais comme le disent les sondeurs, tout dépend de la représentativité du grand débat. Et pour ce faire, des instituts comme le CEVIPOF, mais aussi des instituts de sondage, ont testé durant cette expérience le profil sociologique des débatteurs. Et on constate, et j'irai rapidement sur ce point, que les débatteurs étaient globalement des représentants de la France qui va bien. C'est-à-dire que globalement, on assistait d'abord à une surreprésentation des sympathisants de La République En Marche dans les grands débats. Mais au-delà de ce cercle de sympathisants, on a assisté à une large surreprésentation de retraités des classes supérieures, de CSP+, et de professions intellectuelles. À ce titre-là, le grand débat, qui n'a sûrement pas tenté de se faire passer comme tel, était en tout cas le grand débat d'une partie de la France avec elle-même, et non pas un débat aussi démocratique qu'il prétendait l'être pour autant. Mais c'est tout à fait naturel, c'est le jeu qui conduit à dire qu'un grand débat permet à tous les Français de se rencontrer. Souvent, la sociologie est une science de la déception, et elle nous montre que derrière les apparences, évidemment, se dissimulent d'autres formes de réalité. Et en même temps, ces grands débats ont eu des vertus incontestables. Vertus incontestables dont la première est d'avoir permis une expression légitime, parce qu'elle permettait une participation jusqu'alors empêchée. Elle a donné place, un rôle à un conflit, hein, un conflit parfois ouvert dans le grand débat lui-même, hein, des gens qui s'écharpaient ou qui s'opposaient très fortement, mais donc qui laissaient place à ce qui constitue la démocratie, c'est-à-dire la délibération et donc la possibilité de négociation. Hein, par opposition, par exemple, aux réseaux sociaux, d'où on sait que des communautés s'invectivent les unes les autres, mais qu'on retrouve rarement des vrais débats sur Twitter. En général, c'est l'occasion d'exprimer soit son soutien, soit son opposition, souvent violente et le plus souvent anonyme, à un pouvoir quel qu'il soit. De ce fait, cette participation démocratique, elle a eu pour effet, notamment, de délégitimer aussi les mouvements de violence qui ont pu émailler les manifestations des Gilets jaunes tous les samedis, ou en tout cas les samedis des derniers mois. En délégitimant la violence, elle permet de faire re-rentrer la question du mouvement social des Gilets jaunes dans une délibération démocratique dite normale, c'est-à-dire excluant les types de violence. Je dirais que ce grand débat, il a eu aussi l'autre avantage de pouvoir manifester des éléments saillants de la culture politique française, notamment un goût pour la discussion, voire pour la polémique, une appétence pour la chose publique, mais aussi, il a manifesté dans les thèmes retenus et dans les positions exprimées, un très grand goût et un très grand sens de la justice sociale, qui, à mon avis, fait que, dans la culture politique de ce pays, on assiste à une singularité vis-à-vis d'abord de l'apathie démocratique qui existe chez nos voisins, donc il faut quand même le reconnaître, hein, une forte mobilisation en France, et un sens de la justice sociale qui tranche avec parfois une acceptation fataliste des inégalités dans les démocraties qui nous entourent, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Non, eh bien le grand débat montre que la question de la justice sociale est une question qui demeure fondamentale dans les délibérations démocratiques. Et en même temps, ce grand débat, il ne faut pas lui demander plus que ce qu'il a été, il montre ce que le philosophe Daniel Innerarity appelle la dimension décevante de la démocratie. Décevante parce que, au-delà d'une discussion de la délibération, eh bien, on se rend compte qu'elle permet de montrer qu'on n'a jamais le dernier mot, forcément, en démocratie, qu'il y a toujours des positions qui peuvent s'annuler, que des fois, on souhaiterait que toutes les positions soient exprimées, que toutes les idées soient retenues, et évidemment, c'est un apprentissage de la déception, comme encore une fois, tout apprentissage démocratique. On ne peut pas obtenir forcément totalement gain de cause quand on se rend à un grand débat, mais on peut avoir l'espoir qu'une de ces idées, ou une partie de cette idée, va obtenir, on va dire, l'assentiment du plus grand nombre, ou en tout cas va être reprise par le pouvoir. Alors, quand on passe sur ce relatif satisfecit vis-à-vis du grand débat, je voudrais juste pointer, histoire d'être rapide et de faire circuler la parole, deux problèmes, me semble-t-il, de ce débat, deux problèmes fondamentaux. Le premier problème est qu'il me semble que le grand débat a finalement validé une conception verticale du système politique qui oppose le président de la République et le pouvoir exécutif, mais le président de la République dans sa solitude, vis-à-vis de ce qui est constitué comme le peuple, en tout cas les demandes de la population. C'est-à-dire que le grand débat validait l'idée d'une délégitimation des contre-pouvoirs. Et même si le président de la République a voulu en appeler aux élus lors de la conférence de presse où il a fait des propositions le 25 avril, eh bien quand même on constatait que l'ambition d'élaborer un dialogue direct entre le peuple et le dirigeant, eh bien disqualifie de fait tout ce qui faisait jusqu'à présent les corps intermédiaires dans la social-démocratie française, c'est-à-dire les syndicats, les partis, les associations, tous les mouvements et groupes d'intérêt qui peuvent médier d'une certaine manière la parole populaire pour la porter vers le pouvoir exécutif et permettre une réponse qui soit une réponse fine, une réponse subtile. Là, le pouvoir a dû faire face à une parole brute de l'opinion. Et face à cette parole brute, eh bien, il a tenté de faire un certain nombre de propositions. Mais ce qui frappait dans la conférence de presse d'Emmanuel Macron, et c'est une idée très importante que j'ai essayé de développer dans mon livre par ailleurs, c'est la solitude du gouvernant contemporain. On constate, et on le dit très souvent, qu'Emmanuel Macron est un dirigeant seul. Il est seul au sens où il dispose d'un Premier ministre relativement effacé, d'un gouvernement, on va dire, composé de personnalités méconnues, voire de second plan politique, d'un Parlement affaissé, d'une opposition introuvable, de médias critiqués par l'opinion et par lui-même. Donc, une solitude qui le contraint en permanence à être en première ligne vis-à-vis de l'opinion, dans une mode, entre guillemets, une mode institutionnelle qui avait été initiée par Nicolas Sarkozy en 2008, on s'en souvient, avec ce qu'on appelait à l'époque le tournant de l'hyper-présidentialisation, et qui est ici tout à fait accentué justement par l'affaissement des contre-pouvoirs traditionnels et notamment des grandes forces partisanes de gauche ou de droite qui permettent aussi, l'opposition à la inutilité, elle permet d'affiner les arguments et de répondre et d'améliorer une proposition de politique publique parce qu'on est confronté à des obstacles. Et ici, Madame Macron est confrontée à un obstacle informe qui est quand même l'opinion publique quand elle s'oppose à lui dans toute sa violence potentielle. Et puis, deuxième problème que je vois, et je m'en tiendrai ici, à cette première introduction, le débat a été pensé comme une participation, mais en réalité, elle ne répond pas totalement à la crise politique ouverte par les Gilets jaunes, parce que cette crise politique revendiquait non seulement une participation, mais elle revendiquait à plusieurs reprises une transformation dans le partage du pouvoir. Transformation en partage du pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les Gilets jaunes ne voulaient pas seulement être entendus, ils voulaient redonner du pouvoir au peuple, selon la formule consacrée. On constate que dans les démocraties contemporaines, ce mouvement se retrouve à peu près partout. Soit par des demandes de référendum d'initiative citoyenne, c'était une des revendications du mouvement des Gilets jaunes, soit dans des revendications, on va dire, d'un pouvoir moindre du dirigeant au profit d'un collectif, par exemple, d'une façon de rehausser le pouvoir du Parlement. Eh bien ici, il n'en a pas été question, et d'une certaine manière, le grand débat et ses conclusions n'a conduit à aucun changement dans la détermination des positions de pouvoir. Le président de la République a répondu qu'il avait entendu, qu'il allait faire des propositions en fonction de ce qu'il pensait avoir entendu d'un débat dont il avait lui-même posé les cadres. Rappelez-vous, c'était pas un débat libre. Il y avait énormément de sujets qui n'étaient pas abordés et qui ont été délibérément exclus de la délibération. Et par ailleurs, le procédé selon lequel, finalement, les citoyens exprimaient plus des doléances qu'un débat, des doléances, au prince, le prince, leur répondant, reste sur une détermination du pouvoir qui, me semble-t-il, ne règle pas le problème de la crise démocratique française. Crise démocratique dont je finirai par dire que elle est toujours tout à fait permanente si on observe toutes les enquêtes d'opinion, non pas des sondages, mais des centres de recherche politique comme le CEVIPOF. Je citerai seulement deux chiffres du CEVIPOF dans ce qu'on appelle le baromètre de la confiance, qui permet de situer le niveau de confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et républicaines. Eh bien, 83% des Français, selon cette série d'enquêtes menées à haut niveau tous les ans par le CEVIPOF, 80% des Français ou plus considèrent que les politiques ne se préoccupent pas des gens comme eux. Et 80% considèrent que la démocratie française fonctionne mal. Et, eh bien, cet état de fait n'a ni changé au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, elle s'est détériorée au moment de la crise des Gilets jaunes, et le grand débat, me semble-t-il, n'a pas permis clôturer, ou en tout cas de renforcer la confiance dans les institutions démocratiques. Donc je dirais que le président de la République a essayé de répondre à court terme à une crise politique, peut-être y a-t-il réussi, mais en ce qui concerne les fondements de la crise démocratique, eh bien, rien n'indique que cette situation est en évolution.
Merci beaucoup à Vincent Martigny pour cette première mise en bouche substantielle qui déjà soulève un certain nombre de questions. On aura l'occasion d'y revenir. Je laisse maintenant la parole à Patrice Moyon, qui est un observateur de terrain. Donc le point de vue sera différent, mais on verra si cela confirme ce qui a été dit par Vincent Martigny. Nous avons souhaité inviter quelqu'un qui vient d'un quotidien régional, mais je rappelle que Ouest France est quand même le premier quotidien français en termes de tirage, pas négligeable, mais justement un point de vue qui n'est pas tout à fait un point de vue parisien. Voilà, je laisse la parole maintenant à Patrice Moyon.
Merci. Alors, Vincent Martigny a souligné tout à l'heure qu'avec la crise des Gilets jaunes, la France avait vécu une crise politique. En tout cas, c'était un mouvement inédit par son ampleur. Pour moi, la crise des Gilets jaunes, d'une certaine manière, elle a démarré un peu plus tôt par une prise de conscience. L'été dernier, le journal m'a envoyé faire une série de reportages le long de ce qu'on appelle la diagonale du vide. Et donc, j'ai démarré dans l'est de la France, dans un petit village qui s'appelle Les Voies, une commune de 300 habitants, avec un maire qui est aux commandes de cette commune depuis 30 ans. Et donc j'avais passé une journée avec lui, il m'avait raconté comment il s'était battu à la fois contre l'administration, contre son préfet, pour essayer de maintenir à flot une commune qui ne cessait de perdre des habitants, qui avait une petite commune industrielle, qui avait perdu ses industries, et il m'avait raconté comment il avait, face au départ des habitants, il avait passé des annonces dans la presse quotidienne régionale incitant des familles avec des enfants à venir s'installer si elles avaient du mal à se loger en ville, premier temps. Deuxième temps, des familles avaient répondu positivement, et puis il s'était dit, mais maintenant, il faut que les maisons, la commune les rachète. Il avait mis en place des chantiers, donc une étape, sauver son école. Aujourd'hui, c'est un petit village qui non seulement a regagné de la population, mais en plus qui accueille, il incube des start-up parce que c'est une région forestière. On est dans les Vosges. Et puis, la deuxième partie de ce reportage, j'étais allé dans la Meuse et j'avais rencontré à la fois un grand distributeur, Système U, un industriel et une petite commune, là encore, qui s'était battue pour sauver leur entreprise. Et ils étaient tellement fiers d'avoir sauvé cette usine qu'ils m'avaient dit, écoutez, nous, ce qu'on aimerait, c'est expliquer un petit peu tout ce qu'on a vécu ici, dans ce territoire où tout est menacé, où tout est fragile, où on ne sait pas si demain il y aura encore de l'agriculture. Et ils m'avaient dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'au moins que vous, si un jour vous voyez le Premier ministre, que au moins vous lui disiez, quand on va inaugurer cette usine, est-ce que vous pourriez venir? Alors on en a parlé au sous-préfet, le sous-préfet il a levé les bras, vous ne pensez pas le Premier ministre, et je leur dis, mais attendez, c'est le hasard fait que je dois voir le Premier ministre Édouard Philippe pour un entretien, donc on était au mois de juillet, et donc j'ai cet entretien avec Édouard Philippe, et à la fin de cet entretien, je dis à Édouard Philippe, écoutez Monsieur le Premier ministre, voilà, j'ai une petite requête, est-ce que vous m'accordez une minute, deux minutes peut-être maximum, juste pour que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, vous savez, les habitants de cette petite commune m'ont dit, même les 80 km/h, finalement, peut-être que c'est une bonne mesure. Et là, le Premier ministre m'écoute, et puis, attendez, il m'écoute 30 secondes, et puis il se lève, il dit, ah, écoutez, j'ai pas le temps, il dit, donnez-moi la carte de visite du chef d'entreprise, et puis je verrai. Il se lève, il part. Donc, moi, je suis resté sur ma conversation. Et j'étais rentré à la rédaction, et je m'étais dit, mais... Vous savez, il y a un petit problème avec ce Premier ministre, je pense, et peut-être avec ce gouvernement, c'est que je pense qu'ils sont très intelligents, je pense qu'ils ont une vision du pays, mais je suis pas sûr qu'ils écoutent. Et j'ai pensé à ça au moment où il y a eu la crise des Gilets jaunes. J'ai entendu le président de la République, là, lors de son allocution devant la presse, il dit « j'ai beaucoup appris du grand débat ». Il a également parlé des angles morts de la société française. Moi, je pense que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, probablement que le président de la République avait fait déjà ce constat quand il est parti en campagne électorale. Mais en revanche, ce qu'il avait très très vraisemblablement sous-estimé, c'était les fractures qui traversent la société française. Alors évidemment, moi je suis journaliste à Ouest-France, donc je viens de la province. Le président de la République, dans son allocution, a insisté sur les questions de décentralisation, du logement, du transport, de la transition écologique. Il est resté vague sur ses propositions, si ce n'est qu'il a dit qu'il voulait créer dans chaque canton une maison où on aurait des services, en tout cas tous les services qui concernent l'administration, une maison France Service. Je pense que dans ce grand débat, il faudrait que la France soit capable, et je ne suis pas sûr, parce que Emmanuel Macron reste dans une conception extrêmement verticale de l'exercice du pouvoir. Je pense qu'effectivement, il faudrait que la France aille jusqu'au bout et procède à une vraie décentralisation des pouvoirs. Je crois que c'est de là que c'est une partie des réponses. En tout cas, en Bretagne, c'est ce que j'entends souvent quand des élus, des responsables agricoles, pardon, des industriels me disent « mais on veut avoir plus d'initiatives, on veut avoir plus ». Or, en France... tout remonte à la tête, tout remonte à Paris. Faut quand même se souvenir de tous les étudiants en droit ou en géographie ont planché sur le livre de Jean-François Gravier publié en 1947, Paris et le désert français. Et je pense que je me souviens, il disait, peut-on fonder l'avenir d'une nation sur l'hémorragie interne ? Je pense que la crise des Gilets jaunes, elle est le fruit, elle est le résultat d'une désindustrialisation massive. Quand on regarde des chiffres, hein, 20% du PIB dans les années 80, 11% aujourd'hui, alors que l'Allemagne a su préserver son tissu industriel et qui représente aujourd'hui l'industrie 22% du PIB. Donc moi je pense que une partie des réponses passe par la décentralisation, mais est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que le gouvernement sera capable d'aller jusqu'au bout? Il passe par une réindustrialisation, mais ça, ça se décrète pas, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais elles ne produiront leurs effets que dans le temps. Elle passe aussi, et là, le mouvement avait été enclenché avant la crise des Gilets jaunes, et je pense que c'est une bonne chose, c'est la revitalisation des villes moyennes, parce que c'était Paris et le désert français en 1947, c'est aujourd'hui les grandes agglomérations françaises, qui ont leur rôle évidemment, qui sont importantes, mais aussi le désert autour de ces grandes agglomérations, d'une partie de ces grandes agglomérations, plus on s'éloigne. Et question, alors, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant aussi dans cette crise, c'est que l'expression publique des Gilets jaunes a porté beaucoup sur effectivement une demande d'expression, une demande à être entendue. Elle a démarré sur la question du déplacement, mais il y a les fameux angles morts de la société française dont parle Emmanuel Macron. La question du chômage a paradoxalement été peu abordée. La question du logement aussi, peu abordée, alors que ces deux sujets essentiels, quand vous voyez que le taux d'activité des 15 à 34 ans et des 55-64 ans est largement insuffisant, que vous avez 120 000 jeunes qui sortent du système éducatif chaque année sans formation et sans emploi, et que dans la génération 15-34 ans, vous avez 3 millions qui sont ni en formation aujourd'hui, ni en emploi. Donc, j'ai l'impression, moi, à travers ce grand débat, que Emmanuel Macron, face à la crise, a acheté du temps, il s'est donné du temps, il n'a pas renoncé à sa volonté de transformer la société française, de faire sauter tout un ensemble de ce qu'il appelle de verrous. Après, toute la question pour la démocratie française aujourd'hui, ça va être la capacité d'être effectivement capable de reconstruire du lien social. Comment est-ce que la France s'invente ou se réinvente collectivement? Comment est-ce qu'elle se projette en avant et plus seulement dans le passé, avec un regard un peu nostalgique? Alors, est-ce que ce grand débat, est-ce qu'il a permis d'avancer sur toutes ces questions-là? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Et en tout cas, je suis persuadé que Emmanuel Macron seul n'a pas la réponse. C'est-à-dire que c'est bien par la décentralisation, c'est bien les Français aussi qui ont une partie des réponses dans leurs mains.
Merci Patrice Moyon de ce regard qui complète l'exposé précédent. Nous reviendrons, je pense, dans le débat, parce que c'est intéressant de parler du grand débat, mais c'est aussi intéressant d'en débattre entre nous. Je laisse maintenant la parole à François Soulages. Tout à l'heure, Vincent Martigny a mentionné le souci de nos compatriotes pour la justice sociale, et François Soulages est tout à fait particulièrement sensible à cette question, donc voilà, on va voir si ce diagnostic est confirmé. Voilà, à sa parole.
Bonsoir, excusez mon retard, mais j'étais dans un train en retour de province, on arrive quand on peut. Non, j'étais à l'heure, parce que j'arrive un peu loin. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que j'ai entendu au moment où j'arrivais de la part de Vincent Martigny. Moi, je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance aux gilets jaunes. Parce que il me semble qu'ils ne sont que la face visible de quelque chose de beaucoup plus profond. Le problème, c'est que ce plus profond, ben, on ne le voit pas beaucoup arriver. On ne le voit pas beaucoup s'exprimer. Il y a maintenant 2 ans et demi, avec quelqu'un d'ailleurs qui a été reçu ici le mois dernier, Dominique Potier, nous avons, au sein d'Esprit Civique, fait un travail avec l'AJOC, le MRJC, Emmaüs et quelques autres, pour essayer de travailler sur la question des couches populaires. Et nous nous sommes aperçus, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'était intéressant que ça vienne d'eux, que le grand problème qu'il y avait, c'était l'absence de représentation politique et donc de parole politique issue de ces mondes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de responsable politique aujourd'hui dans la génération actuelle, hein, la génération Macron, hein, pas la mienne, moi j'ai 40 ans de plus que Macron presque, non 35, oui on n'est pas tout jeune, il n'y a plus de voix qui peut porter ce sentiment des couches populaires de ne pas être écouté. Et puis c'est d'autant plus difficile que justement on parle maintenant de couches populaires et non pas de classe ouvrière parce que c'est un monde complètement désorganisé. C'est un monde dans lequel il n'y a aucune homogénéité entre un jeune au chômage dans un quartier difficile, un jeune au chômage, mais dans une zone d'une ville moyenne dynamique, ou celui dans une ville moyenne non dynamique. C'est-à-dire que la chance de trouver un emploi n'est pas du tout la même, alors que c'est un jeune, il a 25 ans, il a un BEP, le même, sauf que deux zones géographiques différentes, et ça ne marchera pas. Le diplômé qui a quitté sa famille et qui vient ici à Paris et qui n'a aucun réseau social, fut-il diplômé, aura beaucoup plus de mal que le même de la même école, mais qui vit à Paris, qui a tout son réseau social sur Paris ou sur Lyon ou sur Marseille. Donc, cette catégorie-là, même si c'est quelqu'un issu des couches populaires, hein, je dis bien, des couches populaires, c'est cette catégorie qui n'a pas de réseau social. Je pense que ça, il y a là quelque chose qui n'est pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est autre chose, de mon point de vue. Hein, je ne suis pas politologue, hein, donc je vous donne mon point de vue tel que je peux le voir à travers notamment ce que nous vivons au Secours catholique et maintenant pendant quelques années au sein du collectif Alerte. Les gilets jaunes, ce sont des personnes qui ont une situation, qui ont ou qui ont eu, mais qui sont donc au chômage, pas forcément au chômage de longue durée. Ce sont des personnes qui ont encore l'impression qu'en se mettant ensemble, ils peuvent faire quelque chose. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi les ronds-points, hein, parce que les ronds-points, c'est significatif du lieu de rencontre. Mais c'est des gens qui ont la capacité de se dire « on peut encore dire quelque chose ». Mais il y a une bonne partie de la population qui ne bouge pas et qui n'était pas dans les gilets jaunes. Les jeunes n'étaient pas dans les gilets jaunes. Les gens de la troisième génération des gosses de banlieue n'étaient pas dans les gilets jaunes. Je crois qu'il faut être très attentif. Les gilets jaunes ont posé une question, celle, en effet, alors là par contre je suis d'accord, d'un pouvoir qui les a oubliés. Mais ils ne sont pas les seuls à être oubliés. Et j'allais dire, à la limite, on peut imaginer qu'une campagne électorale bien faite avec quelques slogans un peu, enfin, genre Marine Le Pen, peut mobiliser des gilets jaunes. Mais on ne mobilisera pas ces couches populaires qui ont le sentiment d'être complètement abandonnées. C'est pour ça les 40% de votants aux prochaines élections européennes après les sondages, ces 60%, c'est pas les gilets jaunes, les 60%. Les 60%, c'est les gens qui sont bien installés dans la société, se foutent du tiers comme du quart de l'affaire européenne, et ceux qui, au contraire, sont complètement ont l'impression qu'ils ne comptent plus pour personne. Et ça, c'est absolument dramatique. Je crois, voilà, qu'il faut faire attention à ne pas vouloir trop généraliser. Vous savez, dans le débat, et Patrice Moignan vient d'en parler, pourquoi dans le débat ne sont pas venues les questions du chômage et du logement? Mais tout simplement parce que les gens qui ont participé au débat n'ont pas de problème de chômage et pas de problème de logement. C'est tout. Et pour moi, ça déconsidère le débat directement. Que ces questions ne soient pas sorties démontre simplement que ce grand débat était totalement biaisé, s'est adressé à une certaine partie de la population. Nous nous avons mené à Nanterre, en particulier avec ma femme, que je salue, puisqu'elle m'a accompagné ce soir, nous avons mené un débat au sein de la communauté chrétienne. Mais ce débat était inintéressant. Parce que les gens qui étaient là étaient des gens installés. Mais on a envoyé notre contribution, on a fait ce qu'il fallait. Donc voilà, je crois qu'il faut être très attentif. Alors après, effectivement, mais ça on reviendra sur le contenu du débat, mais je voulais vraiment insister sur ce point. Le débat est la photographie, plus exactement l'absence au grand débat, est la photographie de ce qui est derrière les gilets jaunes et non pas les gilets jaunes eux-mêmes. Voilà. Après on aura l'occasion de revenir sur d'autres points.
Merci François Soulages pour cette première intervention. Je rappelle pour nos auditeurs de RCF que ils écoutent les mardis d'éthique publique du Centre Sèvres et un débat ce soir consacré au grand débat. Après le grand débat, quel modèle social? Alors, Vincent Martigny, vous avez été interpellé sur la question des gilets jaunes. Bon, il y a une question de sociologie là peut-être à trancher. Et puis peut-être qu'après on pourra revenir effectivement sur les non-dits, tenter d'échanger entre vous sur les non-dits de ce grand débat, parce que effectivement tout le septennat de tout le quinquennat pardon de François Hollande a été occupé par cette question du chômage. On se souvient que il fallait inverser la courbe du chômage. D'un seul coup, la courbe du chômage a totalement disparu des préoccupations des politiques publiques. Ça mériterait peut-être d'être un petit peu creusé. Alors Vincent, d'abord.
Alors, je répondrai par plaisir d'interpellation rhétorique, plutôt pour dire que je n'ai rien entendu de ce que vous avez dit, François Soulages, qui soit ni en opposition, ni d'ailleurs en désaccord avec ce que j'ai pu formuler dans un premier temps. Donc peut-être avez-vous mal entendu ce que je disais. Parce qu'au contraire, je trouve dans ce que vous dites tout à fait des choses que je rejoins, c'est-à-dire que les gilets jaunes ne sont pas les plus pauvres des plus pauvres, puisque on le sait depuis un livre très important en sciences politiques qui n'est pas très connu du grand public, mais qui pour nous les chercheurs compte, un livre de Daniel Gaxi qui s'appelle « Le sens caché ». Le sens avec un C, C-E-N-S, hein, comme dans le sens la démocratie censitaire, par exemple. Bon. Le sens caché, c'est-à-dire ce chercheur montrait déjà il y a une vingtaine d'années qu'il y a toute une partie de la population parmi les plus déclassés, hein, chômeurs de longue durée, personnes isolées, notamment, encore une fois, par la pauvreté, qui ne votent plus depuis très longtemps. Ils ne veulent plus 30 ans, qui sont éloignés du sens. Et à ce titre-là, les gilets jaunes, évidemment, et ça je crois que ça a été relativement quand même dit dans les médias, ne représentent pas cette population. Ce sont des gens qui, justement, ont suffisamment de ressources sociales, intellectuelles, voire économiques, pour pouvoir encore crier pour être entendus, pour attendre quelque chose de la communauté politique. Parce que les gens qui n'attendent plus rien, ils ne votent pas, ils ne se mobilisent pas, ils ne se réunissent pas. Ils n'ont pas confiance dans la communauté politique. Donc à ce titre-là, je suis absolument d'accord avec le fait que les gilets jaunes font partie des classes moyennes inférieures, hein, qui travaillent, et qui finalement nourrissent leur colère sur, je dirais, un des, si je veux être un peu provocateur, un des mensonges fondamentaux qu'on répète dans la vie politique aujourd'hui, c'est-à-dire si on travaille durement, eh bien on a un salaire à la hauteur de son travail. Cette chose qui a été vraie dans les années des 30 glorieuses est aujourd'hui, me semble-t-il, un mensonge. Un mensonge au sens où on connaît les chiffres économiques de la progression du capital vis-à-vis du travail et qu'on sait qu'énormément de travailleurs en France et dans le monde travaillent durement mais ne gagnent pas un salaire qui leur permette de vivre décemment. Je pense notamment à tous les gens qui sont exclus du CDI, par exemple. On sait que c'est une proportion très importante de la population et qui parfois travaillent à temps partiel. Vous vous rappelez sûrement tous du très beau livre de la journaliste du Monde, Florence Obna, qui avait ce livre qui s'appelait « Le Kedwistreham » qui montrait, qui s'était mis dans la peau d'une femme de ménage qui donc faisait des heures en Normandie et qui montrait qu'on peut travailler dur mais ne pas pouvoir vivre de son travail. Et puis deuxième question sur laquelle je me sens gêné d'être à nouveau d'accord avec vous, François Soulages, parce que il ne me semblait pas avoir exprimé de désaccord, et bien c'est sur le fait que le grand débat, et c'est ce que je crois avoir dit en introduction de mon propos liminaire, le grand débat ne concernait à mon avis que marginalement les gilets jaunes. Le grand débat concernait, je le disais, une France qui va plutôt bien, ce qui explique que les questions de logement, par exemple, soient escamotées parce que les gens qui vont au grand débat n'ont pas de problème de logement. Hein, ils peuvent s'intéresser à des questions qui sont certes, pour les gens qui ont du temps, tout à fait passionnantes, et attention, le politiste vous dira, ou le politologue vous dira, fondamentales, qui sont la question, par exemple, des institutions, mais qui, pour quelqu'un qui a du mal à boucler les fins de mois, reste une question relativement secondaire. Même si, ce qui est intéressant, c'est qu'on a constaté, dans le mouvement des Gilets jaunes, des revendications institutionnelles tout à fait sans précédent. Et notamment, je me souviens, une revendication, ça c'est pour l'anecdote que je vous raconte cela, il y avait une revendication tout à fait passionnante des Gilets jaunes qui disait « Mais pourquoi est-ce qu'on fait pas, pour le Parlement, des listes qui seraient des listes pour se présenter, mais qui tiendraient compte de l'origine sociale ?» C'est-à-dire, par exemple, si la France compte,
30% d'ouvriers d'employés, bon, on fera une liste dans laquelle il devrait y avoir 30% d'ouvriers employés, 8% de cadres supérieurs, enfin, etc., qui permettrait de représenter la population selon son origine sociale. Alors, c'est intéressant, je dirais pour faire un point d'histoire avec vous, c'est une idée qui avait été formulée très, très fortement, il y a très longtemps, en 1848, dans la révolution de 1848, cette formulation avait quasiment été passée au Parlement, et finalement, on a choisi une autre théorie de la représentation, celle qu'on appelait à l'époque la représentation des meilleurs, c'est-à-dire indépendante de l'origine sociale. Et on voit là que cette idée revient par la fenêtre. Moi, je trouve que ça me fascine presque en tant qu'historien des idées, mais en tout cas, on voit qu'il y avait des propositions sur le plan institutionnel. Bon, propositions, encore une fois, qu'on retrouvait dans le grand débat, mais au-delà de ça, en effet, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait eu énormément de propositions escamotées et d'enjeux fondamentaux qui n'aient pas fait partie du grand débat. Vous en avez nommé quelques-uns. On pourrait rajouter... d'autres éléments qui étaient totalement exclus, notamment la question de la politique économique de la France, par exemple, des rapports aux grandes entreprises, des rapports aux banques ou au système financier qui ne faisaient pas partie du grand débat et qui pourtant sont des questions fondamentales dans notre organisation.
Merci Vincent. Est-ce que Patrice Moyon ou François Soulage voulaient réagir sur ce plan-là? Après, moi, j'aurais une autre question à poser. François Soulage.
Mais je pense qu'effectivement, dans les propositions qui ressortent du grand débat, elle souffre, me semble-t-il aussi, de l'idée que on cherche, alors peut-être c'est la question des médias, hein, on cherche à répondre à ce qu'on pense qu'était la revendication des Gilets jaunes. Moyennant quoi, il y a des tas de choses auxquelles on ne répondra pas. Je crois que là-dessus, on est d'accord, Vincent, et peut-être on ne s'est pas bien compris. Parce que, c'est ce que je vous disais, des classes populaires, des gens qui ne votent pas, ils ne vont pas se retrouver dans les propositions qui sont... Enfin, il y en a quelques-unes, hein, on pourrait d'ailleurs les lister. Mais globalement, comme on focalise sur « il faut arrêter la crise des gilets jaunes », donc les mesures, il faut qu'on voit si ces mesures vont permettre d'arrêter la crise des gilets jaunes, passe complètement à la trappe le fait que, bah, ce qu'on disait des villes moyennes, ce qu'on disait de la ruralité, de la mobilité, etc., ça va passer complètement à la trappe. Alors, ce qui est d'autant plus dommage, c'est que avant la crise des gilets jaunes, ce gouvernement avait commencé à faire des choses. Par exemple, sur la formation. Alors, ils le font à leur manière, c'est-à-dire que c'est une manière très technocratique, mais enfin, sur la formation, ayant pris conscience qu'un des problèmes de notre pays, c'est qu'il y a à la fois des gens qui sont pas assez qualifiés, et donc c'est le fait qu'on a du mal à trouver des emplois, il y a 500 000 emplois non pourvus, et que les gens qui sont au chômage ne sont pas qualifiés pour les métiers que l'on a. C'est-à-dire qu'on a 3 millions, je ne sais plus combien, 3 millions 4, 3 millions 500 000 chômeurs. Donc ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il y avait un énorme effort de formation, sauf que personne n'en parle, parce qu'en effet, la question de la formation n'est pas venue dans le débat des Gilets jaunes. Or, on nous a promis 10 milliards, ça arrive qu'à un cas, mais enfin, ça va arriver finalement un jour, mais personne n'en parle. Donc en même temps, c'est assez bizarre, parce qu'il y a des choses qui se passent et dont on ne parle pas, parce qu'on est focalisé sur quelque chose qui est apparu médiatique et qui n'est pas... en y répondant, ce n'est pas ça l'essentiel de ce qu'il faudrait faire.
Oui, juste une remarque. Il y a aussi quelque chose de vertigineux avec cette crise des Gilets jaunes, parce qu'on en parle comme d'un mouvement homogène. Et on voit bien, c'est parti d'une colère sur la question de la taxe carbone, de prix de l'essence... avec des revendications sociales, et puis ensuite ça a pris une revendication plus politique et institutionnelle, mais sans qu'on sache très bien définir le contour de ce qu'on appelle ce mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a, c'est quelque chose de, je trouve que c'est quelque chose de compliqué.
Alors moi j'aimerais qu'on revienne sur un point que vous avez soulevé, Patrice Moyon, qui est un vieux serpent de mer, cette question de la décentralisation. Puisque nous avons là un politiste, un spécialiste d'économie sociale, un journaliste très impliqué sur le terrain. Bon, la France est un pays centralisé, vertical, les corps intermédiaires continuent à exploser ou à disparaître. Alors... Qu'est-ce qu'il conviendrait de faire? Parce qu'il y a quand même eu des lois de décentralisation en 1981. Je me souviens que quelqu'un cher, François Soulage, Michel Rocard, lorsqu'il était ministre du Plan, avait mis en place les contrats de plan État-région, qui avaient quand même permis de décentraliser une partie de la décision économique. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce que Vincent Martini décrit dans son livre, c'est-à-dire le retour du prince, une verticalité, plus de corps intermédiaires, et l'impossibilité de transférer les décisions à des échelons où ceux qui ensuite auront à vivre ces décisions sont directement impliqués. Alors j'aimerais bien que les uns et les autres vous nous disiez votre vision du sujet. François Soulages.
Oui, la question est encore plus compliquée parce que en partie on a un peu décentralisé. Mais comme on a décentralisé par petits bouts, on a aujourd'hui des dossiers sur lesquels il faut 12 décisions. Alors des décisions de la collectivité territoriale, la commune, le département, la région, je ne blague pas, j'ai connu des dossiers où il fallait 12 signatures. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui faussement décentralisé, puisqu'on ne donne pas à chacun des échelons une responsabilité globale. Alors c'est peut-être ça, hein, la vraie décentralisation. Il faut arrêter de multiplier les échelons de décision. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé sur le plan pauvreté du gouvernement, il n'y a pratiquement aucune mesure qui soit géré de manière complète par un partenaire. Donc c'est le blocage permanent. Donc moi je pense que c'est plus autour de la simplification des responsabilités, en accordant plus à certains, éventuellement en retirant des bouts, parce que c'est des bouts qui leur servent à rien, on leur en donne un petit bout mais ça sert à rien, de concentrer les décisions sur un certain nombre de partenaires qui auront effectivement la responsabilité. Mais ça demande en effet à l'État de renoncer, alors là je suis complètement d'accord, sur le fait qu'en définitive, comme il n'a jamais totalement décentralisé, il garde toujours une possibilité de fermer le robinet.
Patrice Mouillon.
Il me semble qu'il y a d'abord un travail de clarification à faire, parce qu'effectivement ça permettrait d'éviter ces échelons et ça permettrait de responsabiliser les acteurs. Et ça me semble d'autant plus important de faire ce travail de clarification avant même de parler de décentralisation, c'est que les finances publiques sont sous contrainte, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on a vu avec la RGPP, on rabote à droite, à gauche, et on ne prend pas le temps de s'arrêter pour dire quels sont les nouveaux grands enjeux pour la France de demain. Donc pour moi, d'ailleurs, je pensais à ça à l'occasion de ce grand débat, je me disais, mais finalement, on ne se projette pas, c'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Macron, il achète du temps, mais il pose pas les grands enjeux. Par exemple, la question du vieillissement, qu'est-ce que ça va impliquer à l'échelle du territoire demain? Et on évoque le sujet, mais on reporte. Le grand débat, il aurait aussi dû porter là-dessus. La question de la décentralisation, c'est clarifier, responsabiliser, parce que de toute façon, on sait qu'on est dans un environnement économique et financier sous contrainte. Parce que ça permet aussi de responsabiliser les acteurs et de les mettre face aux questions extrêmement pratiques, alors que là, on est dans une espèce de ligne de fuite et on finit toujours par s'en remettre à l'État, qui de toute façon, à un moment, ne peut pas faire tout.
Vincent Martini.
Oui, c'est une question tout à fait essentielle. La décentralisation, c'est presque un serpent de mer. Évidemment, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur la question de la simplification. Je vais vous donner juste un chiffre, tout simplement. Vous savez qu'il y a 35 900 communes, il y en avait plus de 36 000, mais il y a eu quelques fusions. Ça représente un quart de l'ensemble des communes de toute l'Union européenne. Il y a autant de communes en France, voire un peu plus qu'aux États-Unis, pour une population qui est 5 fois inférieure. Donc ça, c'est la première chose. On sait en plus que, vous savez, il y a une multiplication. Et vous avez maintenant les communes, les comités de communes, le département, les régions, etc. etc. J'en oublie certainement, communautés urbaines, etc. etc. qui complexifient un peu la décision. Et là-dessus, je rejoins ce qui a été dit. Deuxième élément, évidemment, c'est la question de ce qu'on appelle, un vocabulaire qui n'est pas très heureux, la péréquation financière. C'est-à-dire, quand l'État donne des nouveaux pouvoirs à un échelon inférieur, il ne lui donne pas l'argent pour pouvoir avoir les pouvoirs qu'elle donne. Donc en gros, on vous donne une responsabilité sans vous donner le financement qui vous permet de l'entreprendre. Ce qui revient dans les faits à ne pas vous donner le pouvoir, puisque vous connaissez le vieil adage, qui paye, décide, évidemment. Troisième élément, me semble-t-il, c'est le fait que l'État a organisé la décentralisation comme des mini-États. Chaque région a encore un pouvoir très centralisé dans la région. En général, là, vous avez le siège de la région, avec peu de contre-pouvoirs. Et surtout, chaque région est isolée l'une de l'autre. Il y a certes une association des régions de France, des présidents de région, mais il y a très peu de coopération entre régions. Et ce qui fait que si vous vivez, par exemple, dans une zone limitrophe d'une région, où vous êtes vraiment, vous êtes confronté au pouvoir institutionnel de deux régions, eh bien, vous pouvez totalement ignorer ce qui se passe à 50 km de chez vous, ou même à 20 km de chez vous, s'il se trouve que ce 20 km est dans la région d'à côté, puisque les coopérations institutionnelles sont quasiment inexistantes. Ce qui explique aussi la difficulté pour les communes de fusionner, parce qu'on considère que chacun son petit territoire et qu'il ne faut surtout pas fusionner parce que ça serait un affaiblissement de l'ensemble. On conçoit finalement la coopération régionale comme un jeu à somme nulle. S'il y en a un qui gagne du pouvoir, l'autre forcément en perd, au lieu de penser que ça serait un jeu à somme positive, c'est-à-dire que la collaboration permettrait de renforcer le pouvoir de l'ensemble des échelons. Ça, c'est un autre élément. Alors face à cela, Emmanuel Macron a fait des annonces le 25 avril, puisque quand même il est relativement conscient de ça, mais c'est là où on voit qu'il a du mal à sortir de son propre système. D'un côté, il a dit, puisque en effet on n'a pas fait la péréquation financière, on n'a pas donné l'argent qui correspond, eh bien c'est vers cela qu'on va aller. On va faire des propositions de nouveaux pouvoirs aux régions, voire aux villes, mais par contre on va leur donner l'argent et ils se débrouilleront. Mais dans le même temps, parce que ça reste Emmanuel Macron, avec sa conception très verticale du pouvoir, il a dit qu'on va quand même augmenter le rôle des départements d'État en région, notamment le rôle des préfets. On va donner plus de pouvoir aux préfets. Ce qui est à peu près le contraire de ce que se passe partout en Europe. Au contraire, on dit qu'il faut arrêter de donner des pouvoirs d'État centraux en région. Ça paraît un échelon secondaire. Ce qu'il faut, c'est surtout donner du pouvoir aux gens sur place. Et ça, c'est quand même la vieille tentation jacobine française, cette vieille méfiance quand même de Paris qui est d'accord pour donner un peu de pouvoir, mais enfin qui veut quand même surveiller tout ça. Et donc c'est pour ça que le préfet va être le super surveillant en chef, chargé notamment à travers les maisons France Service d'assurer les services de l'État. Une bonne idée dans l'absolu, l'idée que vous ayez des services nationaux qui soient délocalisés. Bon, il se trouve que ça existe déjà plus ou moins, les maisons de services publics.
Oui,
d'une certaine manière, c'est une annonce un petit peu en trompe-l'œil. Mais on voit bien cette ambivalence qui fait que Emmanuel Macron, en tant que titulaire d'un système institutionnel qui lui donne tellement de pouvoir, je rappelle quand même que le président de la République française est celui qui, probablement, dans toutes les démocraties occidentales, a le plus de pouvoir dans son système institutionnel. Ah, un acteur politique, à moins qu'on lui arrache le pouvoir, il a du mal à y renoncer lui-même. Et ça, c'est une règle fondamentale de la politique.
Merci Vincent. Alors, il nous reste 5 bonnes minutes. J'aurais aimé peut-être que nous terminions avec des questions véritablement politiques concernant le référendum, que ce soit le référendum d'initiative citoyenne, à l'échelon local ou pas à l'échelon local, ou ce qui est en train de se passer avec la décision du Conseil constitutionnel autorisant un référendum d'initiative parlementaire, mais qui doit ensuite être validé par plusieurs millions de citoyens, qui est une sorte de référendum abrogatif à l'italienne. Alors, où en sommes-nous dans tout cela? Est-ce que la démocratie représentative classique avec un parlement, des députés a encore un avenir? Est-ce que la réduction du nombre des parlementaires montre que finalement on n'y croit plus trop et que c'est pas là que ça se joue? Donc ça irait encore plus dans le sens de ce que Vincent Martini développait sur la verticalité et les corps intermédiaires. Est-ce que nous allons vers des formes de démocratie directe? Est-ce que nous allons vers des blocages, c'est-à-dire que les lois qui seront votées par le Parlement seront abrogées sur initiative de l'opposition et des autres citoyens? Comment ça peut marcher tout ça dans un pays où le référendum a été quand même la plupart du temps un plébiscite, il faut bien le reconnaître? Vincent.
Alors rapidement, pour laisser la parole circuler, d'abord, je dirais, pour utiliser une formule, que je pense que la démocratie représentative classique, pure, dans un mode pur, c'est-à-dire exclusive, me semble-t-il, est déjà morte. Elle est déjà morte parce qu'on assiste à une désaffection des citoyens qui votent de moins en moins, à l'exception d'une seule élection, qui est l'élection présidentielle française. C'est la seule où vous avez 80% ou presque de taux de vote. Toutes les autres voient un effondrement de leur taux de vote, de leur taux de rotation électorale, et ça, c'est un phénomène qui n'aura pas de retour. Donc il faut renoncer à un espoir qu'on revienne en arrière, ça me paraît totalement terminé. Et en même temps, attention, parce que la démocratie directe n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc on va probablement, pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, assister à un système mixte. Un système mixte. Et d'ailleurs, le président de la République a commencé à l'amorcer, mais vraiment un tout petit pas, en disant qu'on pouvait faire des référendums d'initiatives parlementaires ou des initiatives citoyennes qui sont passées de 3 ou 4 millions à 1 million de votes, ce qui reste quand même très élevé. Je rappelle que il y a des référendums d'initiatives citoyennes au niveau des Länder, c'est-à-dire des régions allemandes, dans toutes les Länder allemands, mais aussi en Californie, mais aussi en Finlande. Énormément de nos voisins européens pratiquent cette forme de démocratie. Et il me semble, pour paraphraser l'idée de Pierre-Rosan Vallon, le professeur professeur de sciences politiques du Collège de France, qu'on va arriver vers un système probablement de mélange, mais je ne vais pas vous reciter la phrase de Gramsci hein, sur la société qui accouche et dans l'obscurité hein, naissent les monstres. On est dans un moment justement où le rejet de la démocratie la démocratie représentative classique, eh bien conduit justement les citoyens à choisir des partis anti-système qui veulent tout casser sans qu'on sache exactement ce par quoi elles souhaitent remplacer le système actuel.
François Soulages, est-ce que la privatisation d'Aéroports de Paris mérite un référendum national ?
Oui, après tout, parce qu'il y a quand même un vrai débat sur la notion de service public. Alors, mais par contre, moi je veux vous répondre sur la question du référendum. Je pense que tout le débat sur le référendum masque deux éléments. C'est qu'il n'y a plus aucun dialogue avec les partenaires sociaux et il n'y a en fait plus de Parlement. Alors, on est en train de se polariser sur le référendum, est-ce que c'est bien pour la démocratie, etc., ce qui est un vrai débat, hein, mais je n'entre pas dedans, je ne suis pas suffisamment compétent. Par contre, ce que je vois, c'est que pendant ce temps-là, on ne parle pas du reste. Or, c'est le reste qui fait une vraie démocratie. Un Parlement qui n'est plus représentatif, alors de ce point de vue, c'est vrai que la réforme du quinquennat et l'inversion du calendrier est absolument dramatique, parce que du coup, on a un Parlement qui est un Parlement godillot, hein, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est quand même... Enfin, à gauche, ils ont quand même foutu un peu la pagaille avec les frondeurs. Mais enfin, bon, pendant un temps, le Parlement, il était là, il y avait une majorité. Et donc voilà, moi, le vrai risque qui est là. Non, par contre, sur le ADP, je crois que il y aurait une hypothèse, c'est qu'on pose vraiment la question de quel est aujourd'hui le rôle et la place de l'État. Voilà, et moi je trouve effectivement que c'est une question qui vaut la peine d'être posée, mais pas aujourd'hui dans la manière dont elle l'est. Et puis, lorsqu'il faut 4,5 millions de signatures, moi je veux bien, mais enfin ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde.
Patrice Moyon, un mot de conclusion sur ce point.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si la démocratie représentative est malade, c'est le symptôme aussi de quelque chose de peut-être de plus grave, c'est-à-dire que c'est tous les corps intermédiaires, ce sont les grandes institutions, les syndicats qui sont décrédibilisés, ce sont les médias. Pour moi, effectivement, la démocratie représentative, elle a besoin de se réinventer, elle a besoin d'être revivifiée, probablement en donnant plus de parole aux citoyens. Mais on a plus que jamais besoin de corps intermédiaires. On a plus que jamais besoin d'un Parlement qui travaille. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des questions qui sont de plus en plus complexes. Et il ne faut pas croire que l'expression directe, elle permettra de tout résoudre. On a besoin de gens qui prennent un peu de distance. On a besoin d'accords, et ça suppose du temps, ça suppose du dialogue. Donc attention, oui, à la revivification de la démocratie représentative, mais tout ne peut pas passer par démocratie directe.
Voilà, bien, nous terminons par de chaleureux applaudissements cette première partie. Donc, comme vous le savez, merci, comme vous le savez, ce n'est pas terminé. Maintenant, nous passons au débat. Le débat avait commencé, mais nous élargissons le débat à la salle. Donc, comme d'habitude, nous prenons deux ou trois questions par paquet de deux ou trois questions. Et pas trop longues si possible, même si nous avons un peu de temps devant nous. Alors, nous avons une main qui se lève vers le milieu, et puis un peu derrière aussi, et puis aussi au même niveau. Voilà.
Bonsoir. Merci pour vos exposés, très intéressants. Moi, j'avais deux petites questions. La première concerne en fait le fédéralisme. Ça n'a pas été évoqué, donc on a parlé de décentralisation. Et il me semble qu'il y a une différence. Vous avez cité quelques pays, par exemple, qui sont allés un peu plus vers la démocratie directe, dans certains États comme les États-Unis ou l'Allemagne, voire la Suisse aussi. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut aider justement en France pour promouvoir la démocratie ou bien résoudre un peu la crise de la démocratie représentative? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je me dis quelquefois quand un système s'installe quelque part dans un pays, au final, il affecte énormément la société. Donc aujourd'hui, Il n'y a pas que l'État en fait qui veut pas faire un pas vers plus de démocratie, on va dire, vers la démocratie directe. Il y a aussi les citoyens aussi qui sont tellement affectés par ce système-là. Du coup, les citoyens ont du mal à bouger pour proposer quelque chose de leur côté. Merci.
Merci bien. Alors, il y avait une main qui. Alors voilà. Écoutez, choisissez. Hein.
Oui, je voulais simplement poser la question du modèle social, parce que vous avez parlé beaucoup de modèle politique, mais pas tellement de modèle social. Et est-ce que ce n'est pas aussi à jumeler, parce que ça a été un petit peu abordé, le modèle territorial ? C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas sur les aspects sociaux et territoriaux qu'il faut repartir avant de repenser un modèle politique à l'échelle du pays, quoi.
Merci. Alors ensuite, derrière...
Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, M. Martini, là. Marie dit, pardon. Mais bon. Et donc, vous avez dit qu'il y a certains sujets qui ont été mis de côté. Alors, je trouve ça très bien, à la première vue, pourquoi pas. Mais là où je suis un peu surpris, c'est quand j'aperçois que Édouard Philippe va faire passer la loi sur la bioéthique au mois de juillet. Parce que tout le sujet de la bioéthique n'a pas été... abordé, et puis on se sert des vacances pour faire passer la loi. Alors là, je me dis que la confiance, elle disparaît, quoi. Mmh. Puis aussi, sur l'histoire de Vincent Lambert, je m'aperçois que Vincent Lambert, par exemple, là il y a un lobby qui est pour la mort, là, qui veut le faire crever de faim et de soif, quoi.
Merci. Voilà. Alors, on va en rester là pour garder, on garde en mémoire les mains qui sont levées. Alors, donc nous avons en fait quatre questions qui désirent se saisir du fédéralisme, de l'engagement des citoyens, de la modèle social, et puis et des sujets éventuellement laissés de côté. Alors, on commence par François.
Je vais évidemment vous parler du modèle social. La question qui nous est posée aujourd'hui est de savoir si effectivement nous avons un modèle social. Ma crainte, c'est qu'en fait, nous n'en ayons plus. Parce que le modèle social français, il était fondé sur... alors évidemment, je ne me renie pas. Moi, j'ai quand même fait quelques études de marxisme. Mais sur le fait qu'il y avait aujourd'hui un certain nombre de classes sociales clairement identifiées, qu'on était dans un modèle qui était un modèle fondé sur la négociation, même si on a de temps en temps l'impression que tout le monde râle tout le temps, même la CGT signait 85% des accords. On était donc dans une société dans laquelle il y avait un modèle social fondé sur la négociation et puis sur le paritarisme. Et aujourd'hui, le paritarisme, il est en train d'être balayé. Hein, c'est toutes les réformes qui sont en cours. Sur les négociations là-dessus, la loi travail a quand même largement amputé la capacité de négociation des partenaires. Et puis, nos organisations représentatives ont été fortement affaiblies du fait, ça a été dit tout à l'heure, de la dégringolade de l'industrialisation, du changement de métier, de la très grande montée de services, du changement profond dans les fonctionnements des entreprises avec les horaires variables, les changements permanents, les délocalisations. Enfin bref, aujourd'hui, nous avons une couche de salariés qui n'est plus la classe ouvrière dans laquelle vous aviez un leader, vous aviez quelqu'un qui négociait et on se mobilisait et on arrivait à une négociation et c'était un pas en avant et puis on repartait et il y avait une homogénéité. Nous n'avons plus de corps social homogène. Donc à partir du moment où on n'a plus de corps social homogène, il est extrêmement difficile d'avoir un modèle social. Alors bien sûr, on parle toujours du modèle social européen. Le modèle social européen, il était d'une certaine manière un peu ce que je viens de vous expliquer. Il est lui-même en train d'être battu en brèche. Quand on regarde ce qui se passe dans les différents pays, on a un peu, plus ou moins, la même évolution que la France. Donc la question, et c'est pour ça que la question du référendum, elle est importante. Est-ce que notre modèle social aujourd'hui, il ne va pas se reconstruire autour, justement, de la place de chacun des acteurs. Mais le débat n'est pas ouvert, mais ça pourrait être ça. Quelle est la place des différents acteurs? Quel est le champ de décision des uns et des autres? Pour qu'on reconstruise un système de décision collective. Mais pour l'instant, moi, je suis incapable de dire quel est le système de décision collective, sauf, et là, je suis complètement d'accord avec Vincent, un Macron seul. Et alors là, je l'ai vu, puisque j'ai travaillé un peu avec les gens du gouvernement et de l'Élysée. Extraordinaire. Deux ministres qui me disent, écoutez, moi, je suis d'accord, mais ça, faut demander au président. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais toutes les décisions, ça oui, mais comprenez, on ne sait pas. La veille de l'annonce du plan pauvreté, Madame Buzyn, ministre de la Solidarité, ne savait pas ce que le président allait annoncer. Enfin, on marche sur la tête. Donc, vous pensez bien que pour reconstruire un modèle social avec ça, c'est pas évident.
Alors, si vous permettez une anecdote pour aller dans le sens de François Soulages, j'ai passé les dernières 48 heures à Dijon. Il y a un événement à Dijon en ce moment. Quoi ?
C'est le congrès de la CGT.
C'est le congrès de la CGT. Eh ben. Personne ne le savait sur place, la presse n'en parle pas, et ce qui, il y a encore 20 ans, aurait fait évidemment la une des journaux et mobilisé les foules, est totalement passé sous silence et insignifiant quasiment.
Ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est pas parce que les syndicats sont à la peine que pour autant l'idée de mouvement social s'essouffle. Vous vous rappelez peut-être que Nicolas Sarkozy avait dit il y a 10 ans, aujourd'hui en France, quand il y a une manifestation, plus personne ne s'en aperçoit. À l'époque, lui s'en félicitait. On se rend compte que sa prédiction n'a pas été autoréalisatrice. En l'occurrence, il n'y a jamais eu autant de manifestations qu'aujourd'hui. Et j'ajoute que on parle des Gilets jaunes, mais on ne parle pas des très nombreuses marches sur le climat qui fédèrent toute une jeune génération avide de changement et qui n'est pas forcément dans les mêmes modalités que les Gilets jaunes.
Le drame, c'est que ces mouvements sociaux ne se dotent pas de porte-parole avec lesquels on peut négocier.
Alors ça, c'est toute une discussion. Alors je ne partage pas complètement votre avis. Je pense qu'il y a deux types de leaders. On dit toujours, moi j'ai été invité à beaucoup d'émissions pour dire, mais il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader. Bon. D'abord, tous les mouvements qui se veulent, des mouvements de transformation sociale, commencent par être sans leader. Et d'ailleurs, même si on pouvait revenir, je ne fais pas de comparaison, mais à la Révolution française, il faut se rappeler, quand on connaît un peu l'histoire de la Révolution, qu'entre 1789 et début 90, il n'y a pas vraiment de leader. C'est le peuple de Paris qui marche, les femmes de Paris qui vont à Versailles, etc. C'est plus tard qu'apparaissent les leaders. Ouais. Donc ça prend toujours un peu de temps. Et après, j'ajoute qu'il y a toujours il y a une différence entre les leaders de contraintes, ceux qui ont des troupes pour dire on va faire ça, et des leaders dits d'entraînement, hein, des leaders charismatiques. Et ça, les leaders charismatiques, on peut juger ce qu'on veut, mais enfin, les Gilets jaunes, il y a des leaders qui sont reconnus comme des leaders charismatiques. Il n'y a pas de leader de contrainte. Ce n'est pas exactement la même chose. Sur les questions qui ont été posées, alors sur le fédéralisme, difficile de répondre, parce qu'il se trouve que ça traite à la question de la culture politique française. C'est-à-dire la France ne s'est jamais organisée sur un modèle fédéral. Je ne crois pas, malheureusement, on peut le regretter d'ailleurs, que ça soit à l'ordre du jour. D'abord parce que, je le disais tout à l'heure, la construction de l'État sur un mode jacobin a entraîné une forme de méfiance vis-à-vis des gouvernements locaux qui me paraissent relativement incompatibles avec l'idée du fédéralisme. Et j'ajoute que les modèles qui entourent la France sont suffisamment variés pour donner des arguments aux deux camps. Enfin, en tout cas, je ne connais pas de parti fédéraliste en France, donc ce serait peut-être une bonne idée, peut-être cette initiative politique à lancer, mais pour l'instant, à ma connaissance, elle n'existe pas. Sur ce que vous disiez, et ça je crois très importante, sur la responsabilité des citoyens. C'est-à-dire, vous disiez, je crois monsieur, lorsque on est dans un système qui prive les citoyens de leur capacité d'agir, eh bien, même quand on leur donne tout d'un coup un petit peu de pouvoir, ils ne savent pas quoi en faire. Et ça, il me semble que c'est une dimension tout à fait fondamentale. D'ailleurs, le livre que j'ai écrit il y a quelques mois, c'est quasiment une très grosse partie de ce livre, c'est de dire dans quelle mesure nous sommes co-responsables de la situation. C'est pas suffisant de dire que c'est de la faute de Macron ou avant lui de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy. Il faut essayer de comprendre quelle gratification morale nous donne à chacun d'entre nous le fait d'abandonner notre compétence politique à des chefs. Et que c'est trop facile d'une certaine manière de dire que comme les Qatars d'hier, hein, on met tous les péchés du monde sur un groupe de gens qui sont censés être les purs pendant que nous pouvons vivre notre vie. Et je crois que quand on pense que la politique elle est en dehors de nous et que nous n'avons pas ni de rôle à jouer ni même de devoir vis-à-vis de la politique et de l'organisation de la communauté politique, eh bien on en subit des conséquences. Je parlais l'autre jour, par exemple, de ce qui s'était passé à Marseille, pour faire une légère digression, vous savez, l'effondrement des immeubles. Ben voilà ce qui se passe dans une ville où il n'y a plus de politique.
quand on abandonne le pouvoir à quelqu'un qui est là depuis très très longtemps et qui finalement fait un peu ce qu'il veut dans finalement le désintérêt de la population. Il me semble que on a une responsabilité, les citoyens, on peut faire quelque chose, mais il faut commencer par s'y intéresser. Alors, félicitations à vous, vous êtes tous là. Rien que ça, c'était une manifestation d'intérêt et une façon de faire de la politique. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que je suis toujours un peu, comment dire, suspicieux des volontés de renvoyer la politique à toujours à eux les parlementaires, eux les chefs, eux les dirigeants, comme si nous, les citoyens, on n'était que des victimes. Et je crois que ça, à ce titre-là, ce n'est pas une façon assez saine d'envisager la démocratie, y compris contre la démocratie. Je me méfie de deux tendances dans la démocratie, cette tendance-là, et la tendance qui est tendance à dire il faut un consensus, surtout pas de dissensus, surtout pas de confrontation. La démocratie, c'est le conflit. La démocratie, c'est le conflit, c'est l'opposition antagoniste de désaccords, ouverts, médiés par des forces politiques ou par toute une série d'institutions. Quand il n'y a plus que le consensus, eh bien, soit c'est la dictature, hein, soit c'est la dépolitisation. Dans le cas de figure, c'est la même chose. Hein. C'est la fin de l'affrontement. Donc on ne devrait pas se réjouir, par exemple, de voir les syndicats s'effondrer, les partis disparaître. Bon, encore une fois, je suis pas un nostalgique du statu quo. Je n'ai pas l'âge de rêver de revenir à un monde d'avant et je crois même pas qu'il faille le faire de manière générale. Mais pour autant, je m'inquiète de cette obsession du consensus qui est celle du pouvoir actuel. Il faut absolument qu'on soit tous d'accord. Il me semble que les gens en démocratie, les citoyens ont des intérêts contradictoires et c'est très bien. C'est ce qui fait justement le sentiment d'alternative. Quand vous vitrifiez l'espace politique, vous ne créez plus d'alternative, c'est là où tout d'un coup on va chercher des solutions extrêmes. On va chercher en dehors du système politique, parce que la politique a horreur du consensus en démocratie. Sur le modèle social, j'irai vraiment un mot, parce que je suis moins connaisseur que François Soulages, un mot sur le fait qu'il me semble qu'il n'y a peut-être en effet plus de modèle social, mais ce qui me frappe, c'est l'incroyable cohésion des Français autour de l'État-providence.
Ah oui.
Si vous observez l'intégralité des enquêtes d'opinion, des enquêtes sociologiques à tous les échelons, vous constatez mais une cohésion mais qui est tout à fait extraordinaire autour du modèle social, autour de l'hôpital, autour de l'école, autour des infrastructures publiques et autour de l'idée que l'État a un rôle à jouer pour assurer la cohésion citoyenne. Encore une fois, ça nous paraît maintenant tellement évident qu'on ne le signale plus, mais ce n'est pas le cas dans énormément de pays qui nous entourent, à commencer par la Grande-Bretagne. Mais vous avez quand, par exemple, M. Fillon a souhaité, dans la campagne des primaires, proposer des réformes un peu radicales de la sécurité sociale, je peux vous dire que ça a duré 15 jours. Hein. Il a vu tous les sondages d'opinion où sa cote de popularité s'effondrait et il a fait marche arrière immédiatement. Parce que vous avez des taux d'adhésion à l'hôpital qui dépassent les 90%. Taux d'adhésion à l'école publique qui dépasse les 90%. Hein, toute communauté, toute confession, tout milieu social confondu. Hein, et c'est intéressant de constater, par exemple, que sur la question de l'ISF, on le sait, hein, y compris chez des forces politiques qui, a priori, étaient plutôt peu favorables à la taxation des plus riches, je pense notamment aux Républicains ou La République En Marche, eh bien, ce sont des positions minoritaires. C'est-à-dire, on voit une très grande majorité de Français, s'il y avait demain un référendum, pour reprendre cette idée-là, proposerait le rétablissement de l'ISF. Cette idée justice sociale, État-providence, ça, il me semble que c'est une base de le modèle social qui demeure.
Oui, juste sur la effectivement la cohésion des Français autour de l'État-providence, mais il y a aussi une contradiction chez les Français parce que on voit cette révolte fiscale aujourd'hui. Ah oui. Donc il y a certainement quelque chose à reconstruire autour de ça, c'est-à-dire à quoi ça sert l'impôt ? L'impôt, ça sert effectivement à garantir cette cohésion sociale. Et là, le politique, les politiques et les Français ont quelque chose à inventer, à réinventer. C'est-à-dire que cet État-providence, il relie les gens, il leur donne du sens, il permet même aux plus modestes d'avoir accès à des soins de qualité et à l'éducation. Et ça vaudrait peut-être le coup de le rappeler aussi de temps en temps.
Merci. Alors, reprenons une autre série de questions.
Pardon, on n'avait pas répondu à la loi de bioéthique.
Oui, exactement.
Je répondrai simplement que c'est un engagement du président. Il a besoin de temps en temps de montrer à sa base électorale qu'il tient quelques engagements et ça ne lui coûte pas très cher de faire une loi bioéthique.
Oui, alors, vous avez évoqué la justice sociale, vous avez évoqué l'État-providence. Il y a un autre mot qui a beaucoup de sens en France, c'est l'égalité. Et est-ce que ce terme d'égalité ne s'oppose pas à une certaine décentralisation, avec la crainte que si c'est décentralisé, la politique ne sera peut-être plus la même d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre? Et deuxième question, par rapport à une démocratie représentative, l'idée ressort, enfin on l'entend dans le débat des Gilets jaunes, c'est le mandat impératif. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette notion de mandat impératif et comment est-ce qu'on peut faire construire une politique commune avec des mandats impératifs?
Merci. Alors on reste un peu dans le même... Quartier, vers le fond.
Merci. Bonsoir. Je reviens sur la question du modèle social. Il me semble que la question qui se pose, c'est celle du modèle construit sur le Conseil national de la résistance. Et peut-être que ce modèle-là est arrivé n'est plus en phase avec notre monde actuel. Et pour moi, ça serait peut-être l'explication de la défiance du corps social, mais vraiment corps social compris comme un corps qui réagit selon sa physique propre, ça expliquerait la défiance envers les syndicats et les partis de gauche. Voilà, je pense qu'il y a là une vraie question.
Merci. Alors, il y a des mains qui se lèvent sur mon côté droit. Je ne sais pas quelles ont été les premières.
Merci. Moi, je reviendrai sur la question du chômage. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait jamais de manifestation de chômeurs. C'est évident, parce qu'il y a vraiment des zones. Enfin, moi, j'ai des enfants qui sont quelquefois dans des zones que j'appellerais, moi, sinistrées. Et on pense au mouvement d'ATT Quart-Monde qui a créé des universités du Quart-Monde justement pour amener à les chômeurs, enfin les classes du Quart-Monde, enfin les gens du Quart-Monde, à prendre la parole et à porter eux-mêmes leurs revendications. Voilà ma première question. Est-ce qu'il ne serait pas bon de reprendre ça justement? Et ma deuxième question, vous avez parlé du rôle et la place de l'État. Moi, je poserait la question sur la violence aussi de l'État. Non seulement la violence pour réprimer les manifestations, mais par des petites phrases. Comment voulez-vous que les chômeurs prennent la parole quand on dit sans arrêt depuis plus d'un an qu'on favorise uniquement les gens qui travaillent? Donc c'est quand même un peu dénihiliste. C'est pas très motivant pour ceux qui n'en ont pas.
Merci, on va en rester là. Alors reprenons notre série de répondants.
Bon, alors sur la question, madame, du Conseil national de la résistance effectivement, ce qui a donné lieu à l'État-providence, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus du tout dans la même situation économique. Le Conseil national de la résistance, il était fondé sur... Enfin, les propositions du Conseil national de la résistance étaient fondées sur de la distribution de pouvoir d'achat dans une période où il y avait par ailleurs de la production de richesses. Et donc la question était quelle distribution de richesses on pouvait faire. Et on avait choisi un système qui passe par l'État pour pouvoir distribuer. C'est la question de l'État-providence. Sauf que la période des 30 glorieuses, elle n'est plus là. Que notre capacité à produire de la richesse dans un monde qui se mondialise s'est beaucoup affaiblie. Et que donc, qu'on le veuille ou non, le programme du Conseil national de la résistance fondé sur de la distribution, alors qu'il n'y a pas de production, ou il y a moins de production, il a un vrai problème, il a un énorme problème. Et donc toute la question est de savoir comment, et c'est l'enjeu par exemple des élections européennes dont personne bien entendu ne parlera, c'est de savoir si on va rester dans cette situation dans laquelle notre pays se marginalise à l'échelle de l'ensemble de la mondialisation, ou si, au contraire, grâce à une homogénéité européenne plus importante, on arrive quand même à avoir des industries de pointe qui tiennent à peu près la route. Enfin, et de ce point de vue, moi, je suis inquiet. Parce que, peut-être ça vous a un peu échappé, mais par exemple, au nom de la concurrence, on a empêché la fusion entre Alstom et Siemens, qui étaient donc les deux producteurs européens de TGV, en disant, ah bah oui, mais ils vont se faire concurrence sur l'Europe. Mais on s'en fout. Qu'ils se fassent de concurrence sur l'Europe, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, leur marché, c'est à l'étranger. C'est à l'extérieur de l'Europe. Et là, ils te rencontrent les Chinois qui vont leur tailler des croupières. Donc notre Europe, elle n'existe pas. Et donc, tant qu'on n'aura pas cette Europe qui réfléchira un peu comment on est l'Europe dans le monde, on continuera à réfléchir à la France et à l'Allemagne dans l'Europe. Mais on marche sur la tête. C'est pas ça la question. Donc aujourd'hui, on a un système qui ne produit plus suffisamment pour alimenter un système de redistribution lourd. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui... Alors, en même temps, dans la même période, on travaillait sur du déficit public important. Et donc, on faisait des investissements dans toute cette période des 30 Glorieuses. On faisait des investissements publics importants. Et on acceptait un déficit public. Maintenant, on s'est donné la fameuse règle des 3% européens, donc on ne se donne plus les moyens d'une relance par de l'investissement, puisque l'investissement, ça se traduit par de l'endettement, et donc on ferait sauter les fameux 3%. Donc on a un système qui est un système verrouillé. Et Macron ou pas Macron, il va pas s'en sortir. Je crois qu'aujourd'hui, la question, par exemple, du déficit public et de la relance de l'investissement et pas de la dépense. Parce que là, Macron, ce qu'il vient de faire, il vient de faire de la dépense. Il vient de faire exactement ce qu'ont fait ses petits camarades avant, c'est-à-dire qu'il a fait de la dépense publique. Mais quand il aura dépensé 17 milliards, je ne sais pas ce qu'il nous restera pour refaire après de l'investissement public. Donc je vois pas où on s'en va. Voilà. Donc le programme de la résistance, je crois qu'il ne faut pas arriver. Il n'est plus complètement notre système. Par contre, il faut se poser la question de savoir comment on fait pour que notre État-providence, auquel les Français sont largement attachés, et moi j'en fais partie, on puisse ne pas complètement le mettre à bas. Et donc la question est celle de la production de richesses.
Alors,
sur la question du Conseil national de la résistance et du modèle social qui en est issu, moi, Yannick Jadot disait récemment que l'Europe était notre nouvel horizon civilisationnel. Moi, je pense que le modèle social, évidemment, qui doit rester, qui va rester dans chaque État, mais il est en partie aussi à construire à l'échelle européenne. Et ça passe effectivement par la prise en compte de la création de richesses qui nécessite aussi de faire face aux nouveaux enjeux. Je pense au climat, à toute cette proposition, par exemple, la création d'une banque européenne du climat. Enfin, il y a un horizon européen qui peut permettre peut-être de dépasser nos contradictions nationales. Sur la violence de l'État, les petites phrases de Macron, moi je pense que les petites phrases de Macron d'Emmanuel Macron ont fortement contribué à la violente défiance justement qui s'exprime aujourd'hui. Il avait sous-estimé la souffrance d'une partie des Français. Et ça lui est revenu effectivement comme un boomerang. Il peut y avoir une violence de l'État, il peut y avoir une violence des mots. Hein.
Alors, égalité, décentralisation, mandat impératif.
Alors, sur la question que Madame posait, sur la question de l'égalité, c'est intéressant parce que c'est un vieil argument, la question de l'égalité comme risque de différence, de traitement. C'est le fameux principe de la continuité territoriale. Vous savez, on dit, voilà, vous pouvez assurer un service, mais il faut qu'il soit assuré dans l'ensemble du territoire. Moi, il me semble qu'on fait une erreur, je crois, en confondant le terme d'égalité en France avec le terme d'homogénéité. Oui, pour être égaux, il faudrait qu'on soit tous pareils. Il me semble que c'est une vraiment une très grosse erreur. Et c'est une erreur qu'on commet à la fois dans les questions identitaires et culturelles et dans les questions économiques et sociales. C'est qu'on pense que vraiment être tous traités de la même manière, c'est ça la condition de l'égalité. Alors qu'en réalité, ça nous mène surtout à avoir des difficultés à accepter de la différence dans tous les domaines de la société. Et je pense que ce qu'il faudrait au contraire insister, et c'est le principe même de la décentralisation, c'est le principe d'adaptation. On s'adapte aux singularités d'un territoire. On ne pouvait pas traiter, par exemple, la région parisienne de la même manière que vous avez traité l'île de la Réunion ou la Bretagne. Ce n'est pas les mêmes territoires, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas la même histoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas créer une unité dans la diversité. Mais je pense qu'on n'insiste pas assez en France sur l'idée de diversité et on fait cette confusion vraiment entre cette idée d'égalité et d'homogénéité. C'est ça ce lien qu'il faut briser. Après qu'il y ait des droits identiques dans tous les espaces, ça me paraît tout à fait essentiel. Mais la question, c'est qu'on peut avoir des chemins différents pour parvenir au même droit. Ça, c'est une première réponse que je ferai. Sur le mandat impératif, moi je trouve ça tout à fait séduisant, le mandat impératif. Vous savez, au XIXe siècle, ça plaisait beaucoup aux anarchistes, le mandat impératif, parce qu'il y a cette idée qu'on pourrait révoquer aussi l'élu qu'on a nommé pour un mandat. S'il n'accomplit pas sa mission, on le révoque. Dans certains pays dans le monde, en Allemagne, en Californie, ça s'appelle le référendum révocatoire. Moi, je trouve que dans certains cas, alors attention, ce référendum, c'est pas un référendum, mais c'est une initiative qui existe dans le droit français. Par exemple, si un maire est convaincu de mauvaise gestion, il peut être révoqué, son mandat peut être révoqué par la Chambre régionale des comptes. Donc, il peut y avoir une proposition de la Chambre régionale des comptes pour révocation. C'est le seul cas, à ma connaissance, où ça peut parvenir, ça peut arriver. Moi, je suis pas contre le principe du mandat impératif. Ça change la structure, ça crée un sens de la responsabilité. Après, avec des effets potentiels de court terme, voire de démagogie, qui fait que vous devenez Patrick Balkany pour jamais être révoqué. Mais on sait où ça finit. hein, en général devant les tribunaux. Donc, faut faire un peu attention. Sur la question de la violence de l'État. Alors, bah, vous parlez de violence symbolique. Commençons par parler par la violence réelle de l'État, les violences policières. On a vu récemment, depuis plusieurs mois, des violences très importantes. Et je pense que ça, pour en avoir discuté avec, y compris avec des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui étaient eux-mêmes attristés de la façon dont les forces de police ont dû faire face aux manifestations en faisant un usage très fort de la violence, eh bien, on constate une rupture avec tout ce qui a été la théorie du maintien de l'ordre depuis 1945, c'est-à-dire le fait que les forces de l'ordre sont là pour limiter la violence, pas pour l'accentuer. Elles sont pas là pour répondre à proportion de la violence qu'elles subissent, elles sont là pour diminuer la violence et faire tout ce qu'elles peuvent pour diminuer une violence très forte qui sont présentées contre elles. Au nom du fait que quand on attaque un policier, je dis pas que évidemment c'est totalement illégitime, mais quand on attaque un policier, on n'attaque pas une personne en tant que telle, on attaque un représentant de ce que Max Weber après appelait le monopole de la violence physique légitime qui représente l'État. Vous attaquez l'État. Bon. Et il faut constater que la première des violences, c'est d'abord une violence physique. Voilà, encore une fois, on peut trouver qu'elle est légitime, qu'elle est naturelle. Bon, on voit qu'en tout cas, elle fait débat dans notre pays, et je pense qu'elle fait débat bien au-delà des gens qui en sont victimes et bien au-delà des gens qui soutiendraient éventuellement les gilets jaunes, me semble-t-il. Quant à la violence symbolique, évidemment, dont vous parlez, la violence des mots, c'est intéressant. Je parlais récemment avec un chercheur justement du CVPOF qui me disait, pour dire que c'est pas mon idée, c'est plutôt la sienne, que je pense que l'erreur qu'a fait Macron dans ses effets de sens que créaient ses phrases, c'est de montrer un mépris trop ouvert vis-à-vis d'une partie de la population qui souffre. Et d'une certaine manière, moi je le mets en lien ou en miroir inversé avec la réaction qu'avait eue François Hollande lorsque une révélation de sa compagne, dans un livre laissait s'entendre qu'il appelait les plus pauvres les sans-dents. Vous vous rappelez de cet épisode, sans-dents. Et il avait eu à cœur très rapidement de montrer qu'il n'avait absolument pas ce genre de sentiment vis-à-vis de la population. Il l'avait pris très sérieusement parce que je pense qu'il se souvenait il avait conscience de ce risque, qui est un risque que n'importe quel homme politique de terrain connaît. C'est-à-dire, vous êtes confronté aux gens, vous voyez les difficultés qu'ils connaissent et vous vous rendez compte que les capteurs qui vous lient au pays sont les fondements de votre légitimité politique. Un acteur politique, quel qu'il soit, donc quel que soit le système politique dans lequel il évolue, s'il n'est pas considéré comme légitime, là, c'est le début de la fin. Et on voit bien que là, le nouveau monde que propose Emmanuel Macron, qui est un monde d'une personnalité qui n'a pas d'expérience politique, qui n'a pas été élu, qui n'a aucune connaissance du terrain, eh bien, se retourne un peu contre lui. Cette fraîcheur qu'on lui avait reconnue il y a 2 ans, eh bien, aujourd'hui, apparaît comme une inexpérience. Et donc, pas tant un mépris en tant qu'individu, je suis même pas certain que le président de la République méprise particulièrement les classes populaires, je crois qu'au contraire, c'est quelqu'un qui, j'imagine, a des formes d'empathie, mais c'est son inexpérience de terrain qui l'empêche de comprendre comment interagir avec des milieux sociaux qui ne sont pas les siens. Alors on pourrait dire, d'une certaine manière, c'est le cas de tout le monde, hein, si on plongeait n'importe quel d'entre nous dans un milieu qui est totalement opposé au sien, peut-être qu'il aurait des difficultés à réagir parce qu'il n'en maîtriserait pas les codes. Mais c'est la différence entre l'homme politique et le citoyen ordinaire. C'est pour ça que ça demande, une certaine forme, une formation, une expérience d'être un homme politique et que, encore une fois, on peut critiquer les hommes politiques professionnels, mais enfin, ça a quand même un certain nombre de valeurs. Voilà, j'en dis pas plus que ce. Un
peu long. Je peux répondre sur la question de l'égalité. Il se trouve que j'avais un peu préparé cette question parce que j'étais très frappé de voir comment, aujourd'hui, le mot égalité couvre des réalités qui peuvent être très différentes. Nous, on était plutôt dans la culture de l'égalité des résultats. C'est la redistribution fiscale, c'est essayer de gommer les inégalités par l'égalité des résultats. Or, toute la politique de M. Macron, elle porte un nom, il l'a dit exprimé, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'on admet effectivement qu'il y a de grandes différences, mais on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa chance de s'en sortir. Le problème, c'est que ça admet une bonne fois pour toutes qu'en effet, il y a bien une inégalité des points de départ. C'est l'inégalité, je parlais des réseaux, des codes sociaux, c'est l'inégalité de la connaissance, l'inégalité de la culture, l'inégalité des potentiels. Enfin, vous avez des monstruosités d'inégalités. Donc, pour arriver à créer l'égalité des chances, vous voyez combien ça peut être extraordinairement compliqué. Or, et là, c'est très clair. Quand il refuse de faire toute réforme fiscale, c'est bien qu'en effet, il a tourné le dos à l'égalité des résultats. Et donc, on va au-devant d'une société qui sera terriblement inégalitaire. Alors, bien sûr, il y a des petites mesures. La scolarité à 3 ans, la gratuité des petits déjeuners à l'école. Il y a des choses. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Mais quand on regarde l'état actuel de notre société et les différences, de comportement. Prenons la numérisation. Les inégalités d'accès aux services, l'inégalité d'accès à la connaissance, dès lors qu'on saura plus ou moins maîtriser cette numérisation qui envahit complètement notre société, eh bien avant que vous ayez l'égalité des chances dans l'accès à la numérisation, je vous souhaite bon courage. Donc là, on est en face de quelque chose qui me paraît aujourd'hui extraordinairement important. Moi, je pense que revenir à cette notion d'égalité des résultats, ça renvient à ce qu'on vient de dire sur l'État-providence, mais c'est pareil sur les territoires. Vous pensez bien que les petites villes abandonnées, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on arrête toute la politique qu'on appelle la métropolisation. Or, aujourd'hui, on favorise le développement de grandes métropoles. Alors, vous pensez bien que l'égalité des chances, quand vous habitez dans une petite commune en voie de disparition, mais dans laquelle les emplois fichent le camp à tour de bras, tout à l'heure, j'étais avec des gens de l'Ariège. Mais ils m'ont dit aujourd'hui le problème de Saint-Giron, c'est qu'il n'y a plus un emploi vaillant à Saint-Giron en Ariège. Et quand vous habitez Pamiers, vous êtes dans la même situation. Donc vous pouvez parler de l'égalité des chances d'un gamin qui naît à Saint-Giron aujourd'hui, ben bonjour, c'est pas... Vous comprenez ? Là, on a un vrai problème. Donc je crois qu'il faut être très très méfiant, parce que alors, c'est aussi effectivement la question de la non-homogénéité de notre territoire, la non-homogénéité des situations des uns et des autres. Donc voilà, sur l'égalité, je pense qu'il faut être extrêmement prudent quand on en parle, parce qu'il faut parler, il faut savoir de quoi on parle.
Merci beaucoup. Je crois que nous allons devoir nous arrêter sur ce propos de François Soulages. Moi, cette expression d'égalité des chances me fait revenir des souvenirs d'études. Parce que on nous enseignait à l'époque que deux sociologues totalement à l'opposé l'un de l'autre, Raymond Boudon à droite, Pierre Bourdieu à gauche, avaient travaillé sur la question de l'égalité des chances.
Ah, oui.
Le livre de Bourdieu s'appelait « Les héritiers ».
Absolument.
Le livre de Boudon s'appelait « L'inégalité des chances ». L'inégalité des chances. C'est-à-dire que cette idée d'égalité des chances, pour deux sociologues opposés sur le plan politique, c'était une idée inexistante. Enfin, ça n'était pas une possibilité. Et ces deux ouvrages qui sont parus au début des années 1970, donc ça fait déjà un certain temps. Merci à vous tous pour ces échanges vraiment très vivants et très, très passionnants, très stimulants. Et nous nous retrouvons le 4 juin. Le thème retenu pour l'instant serait « Le progrès, existe-t-il encore des raisons d'espérer ?»
Bon. Voilà.
Pour les vacances.
Pour les vacances.
Ah, juste avant les vacances. Hein. Et je vous rappelle aussi que vous avez des urnes à la sortie, non pas pour voter, mais pour y déposer votre quote-part à l'organisation de ces débats, et que vous trouverez aussi les livres de Vincent Martigny et François Soulages. J'allais dire Vincent Soulages.
Vincent, c'est son fils.
De François Soulages. Et un numéro d'étude du mois de mars, dans lequel se trouve un article de Martine Legris sur le grand débat national. Voilà, vous pouvez avoir de la lecture.
Merci.
Oui, très longtemps, parce que ma compagne m'attend.
C'est vrai que c'est terrible.